Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence. Donc, cette conférence a lieu dans le cadre d'un cycle de conférences sur le système pénal et ses dysfonctionnements. Donc, le cycle est décliné en trois conférences abordant chacune une thématique sous différents axes. Donc, la question du racisme est au sein du système pénal est la première conférence que nous abordons avec nos deux intervenants et intervenantes. Donc la deuxième conférence qui aura lieu sera celle qui fera le lien entre les luttes féministes et le système pénal. Donc elle aura lieu le 26 mars, donc vendredi prochain, avec comme intervenantes Françoise Vergès et Gwenola Ricordo. Donc je vous invite à y participer, bien entendu. Donc la troisième et dernière conférence fera le lien entre le système pénal et le système capitaliste. Elle aura lieu le 22 avril, avec comme intervenants Harold Sachs et Anaïs Henegel. Donc ensuite, on aura une quatrième séance qui sera surtout une séance de réflexion collective qui aura lieu le 9 avril avec la présence de Claire Hugon. Donc ça se déroulera sur Zoom avec donc les événements qu'on a actuellement, donc c'est pas possible de le faire en direct. Donc le but, ce sera d'entamer une réflexion collective autour des analyses et problématiques soulevées lors des conférences qu'on aura vues précédemment. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, pardon. Donc la conférence va se dérouler en deux temps. Donc il y aura d'abord les interventions, et ensuite les questions-réponses à la fin. Donc aujourd'hui, la question que vous allez aborder, c'est le racisme au sein des institutions pénales. Donc nous accueillons aujourd'hui Madame Selma Ben Khalifa et Monsieur Luc Vervat pour nous parler donc de la question. Pour l'instant. Donc Madame Selma Ben Khalifa, donc qui est notre première intervenante, elle est avocate et fait partie du réseau Progress Lawyers Network à Bruxelles depuis 2001. Elle est spécialisée en droit des étrangers. Elle s'est illustrée notamment dans l'affaire Maouda. Donc elle est avocate militante pour les droits humains. L'une des actions marquantes qu'on a de Madame Ben Khalifa, c'est notamment en 2013 une grève de la faim avec les Afghans et les Afghanes de l'église du Béguinage à Bruxelles. Donc cette action était pour réclamer les régularisations de leur situation et la fin des arrestations et des expulsions des personnes sans papier. Donc, Monsieur Luc Vervat est professeur de néerlandais en prison. Il milite donc depuis longtemps pour les droits des détenus. Donc, il est également l'auteur de l'essai Le meurtre de George Floyd, la pandémie de violence policière et son traitement révolutionnaire. Donc, Monsieur Luc Vervat a été exclu et interdit de travailler dans les prisons pendant 2 ans. Donc, son exclusion de prison avait été motivée par une note de la Sûreté de l'État qui évoquait les risques liés au militantisme de gauche du professeur. Donc l'État belge a été condamné à verser les indemnités pour dommages matériels et moraux d'un montant de 8 825 euros à Monsieur Luc Vervat. Donc Monsieur Luc Vervat est activiste sur les questions carcérales et militante pour les droits humains. Donc voilà. Si vous avez des choses à compléter, n'hésitez pas. Madame Ben Khalifa et Monsieur Luc Vervat. Donc comme je l'ai mentionné plus tôt, donc la conférence aura lieu en deux temps. Donc d'abord les interventions et puis les questions du public. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, il y a un constat qui est fait depuis pas mal de temps, c'est qu'il y a une grande proportion d'étrangers en prison comparé à la société, au reste de la société, quoi. Donc, on dit que 44% des étrangers en prison originaires de plus de 130 pays. Les étrangers font l'objet de discriminations à tous les stades de la chaîne pénale. Davantage contrôlés en rue, ils sont plus vite arrêtés et plus facilement placés sous mandat d'arrêt, ce qui explique leur surreprésentation dans les prisons. Donc, pour entamer notre conférence de ce soir, la première question que nous allons poser à nos deux intervenants et intervenantes, c'est: pouvons-nous dire que les institutions pénales sont racistes? Pourquoi le système pénal cible-t-il davantage les personnes racisées que les personnes blanches? Et pourquoi les personnes blanches échappent-elles au pénal? Donc, nous allons commencer donc par Madame Ben Khalifa. Vous pouvez prendre la parole. Il me semble qu'il y a un petit bug. Madame Ben Khalifa.
M'entendez?
Oui. Est-ce que vous avez entendu la question ou vous voulez que je la répète? Il semblerait qu'il y ait un petit problème avec
Est-ce
Madame Ben Khalifa.
que vous m'entendez?
Ouais.
Attendez.
Oui, mais il y a un petit problème. Donc je propose que M. Luc Gravatt prenne la parole, comme ça on commence par M. Luc Gravatt le temps de régler le problème chez Madame Ben Khalifa. Donc est-ce que vous souhaitez que je répète la question ou
Vous
c'est.
m'entendez?
Oui,
Ça va
d'accord.
très bien. Ça va très bien,
D'accord.
merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation et bonne soirée à tous et à toutes. Selma, tu veux commencer? Alors, je continue alors.
Oui, vous pouvez y aller.
Ça va. Ben,
Vous
donc voilà,
m'entendez?
merci. Oui. Donc voilà, je pense que je tiens aussi à vous remercier pour attirer l'attention à cette problématique des prisons et du racisme. Du racisme, bien sûr, on en parle déjà pas mal ces derniers temps, et heureusement, et malheureusement en même temps. Mais les prisons, je pense que les détenus et leurs familles sont des plus oubliés pendant cette crise de Covid et la situation à beaucoup de niveaux, elle est tout simplement dramatique. Donc, merci pour ça que vous attirez l'attention à ce public oublié et abandonné. Voilà mon premier message. Deuxièmement, sur la question des prisons et le racisme des institutions pénales. Je trouve que la question, elle contient le fait que, pour moi, la question du racisme n'est pas une question d'apprendre aux gens d'être gentils, d'être respectueux, etc. Bien sûr, il faut l'être, mais la question est que le racisme, pour moi, c'est une question, systémique, c'est une question de système, c'est une question d'institution. Et pour moi, la prison en est l'expression par excellence de ce racisme institutionnel. Donc, ça, c'est peut-être une première remarque. Si je pouvais vous montrer la liste de mes élèves que j'ai eus en prison, quand j'ai donné cours aussi bien à Saint-Gilles qu'à Nivelles, vous verrez que les noms qui se trouvent sur la feuille des inscrits, c'est presque tous des noms d'origine arabe ou africaine. Et je peux vous dire que j'en ai presque pas eu d'autres. Donc, comme ça, c'est peut-être une petite introduction à la problématique pour dire que je trouve que la question du racisme institutionnel, du racisme des prisons, des institutions pénales, c'est d'abord un problème global qui se pose partout dans le monde. Si vous prenez les prisons américaines, comme vous savez, il y a là 2 300 000 détenus, dont 70% sont des Afro-Américains, des Asiatiques, des personnes d'origine asiatique, des personnes hispano-américaines, donc la population colorée, disons, non blanche dans les prisons, elle est clairement en majorité et disproportionnée à leur présence, à leur nombre dans la société même. Mais comme disait Angela Davis, vous pouvez aller un peu partout, hein. Donc elle dit, on peut constater ça aux États-Unis, mais on constate ça par exemple, elle dit, en Australie, où les aborigènes forment la majorité. Elle dit, vous allez en Europe, vous allez voir que les personnes issues de l'immigration, l'immigration, oui, forment un nombre disproportionné quant à leur présence, comparé à leur présence au sein du pays. Donc c'est un problème global, ce racisme institutionnel, qu'on ne voit pas uniquement à partir d'une petite prison comme Saint-Gilles-aux-Nivelles, mais ça se pose dans nos problèmes, dans nos prisons occidentales, disons. Pour moi, Pour continuer, la question donc de la prison, c'est d'abord, pour moi, elle est l'expression d'une société de classe et du racisme. Les deux, pour moi, sont combinés. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que ce sont tout d'abord les pauvres, en tout cas les pauvres comparés aux riches qui se trouvent au sein de notre société, qui se trouvent en prison donc, ceux d'en bas de la société, les travailleurs, les chômeurs, les illettrés, les malades. Donc cette catégorie-là se trouve dans nos prisons, ce que j'appelle une prison de classe, dans le sens qu'il s'agit de ceux d'en bas de la société qui y sont enfermés. Et deuxièmement, la prison, elle frappe particulièrement les populations non blanches qui viennent ou bien de l'extérieur ou qui se trouvent déjà à l'intérieur de nos pays. Donc ces deux caractéristiques de classe et racistes, elles sont inhérentes à notre système pénal et à nos prisons. Quand je parle des populations pauvres qui se trouvent dans nos prisons, si je parle de ceux qui viennent de l'extérieur, je trouve que c'est un prolétariat errant sur nos terres qui cherche du travail et qui cherche une vie meilleure pour leur famille, pour leurs enfants, pour voilà. Oui, ce prolétariat errant, elle est frappée par notre système pénal d'abord. Et deuxièmement, il y a la population non blanche qui fait aussi partie de ces populations qui sont particulièrement frappées par notre système, c'est-à-dire les enfants des populations qui sont venues du Sud. Voilà, et qui se sont installés ici et qui sont aussi particulièrement visés par ces systèmes. Sur ce prolétariat errant dans nos pays, je vais peut-être dire encore un mot juste pour donner un chiffre qu'ils ont fait un examen dans 25 pays européens où ils ont constaté que en ce qui concerne les personnes d'origine marocaine ou des personnes d'origine roumaine sont en tête dans les personnes qu'on appelle étrangers dans nos prisons. C'est-à-dire les Marocains numéro un, hein, et deuxièmement sont suivis par les Roumains, puis les Albanais, puis etc. Donc c'est un prolétariat errant qui se trouve particulièrement représenté dans nos prisons. Donc, je pense que c'est donc un constat global qu'on peut faire à partir de ce prolétariat errant à la recherche de travail, à la recherche d'une vie meilleure. Et donc, ces personnes, disait un certain professeur, il s'appelle Walburg, c'est un docteur en sciences criminelles à l'université en Allemagne, qui dit 60% de ces personnes, que ce soit marocains, roumains, ils se trouvent dans les prisons pour des délits mineurs, à savoir par exemple des vols à l'étalage, des cambriolages, ce genre de choses, mais qui n'a pas de papier, qui ne peuvent pas avoir un statut légal, et donc qui n'ont pas droit à l'asile non plus, et donc c'est-à-dire qu'ils sont bloqués dans leur accès au marché du travail et donc sont en fait poussés à commettre des petits délits et à se retrouver en prison après. Donc ça, pour moi, c'est un premier facteur de ce que j'appelle un racisme qui est inhérent à nos institutions pénales. Et deuxièmement, et ensuite, je dirais, il faut savoir qu'en Belgique, je veux quand même rappeler que bientôt, le mois de mai, on va se souvenir qu'il y a 30 ans, qu'il y a eu le premier soulèvement à Forêt, où il y a les jeunes qui se sont révoltés contre le contrôle au faciès. par des policiers communaux. Donc, ça a été des incidents dont beaucoup au sein de la communauté marocaine se souviennent très, très bien, parce que ça a duré quelques jours quand même. Et donc, c'est un peu étant à différentes autres communes. Et donc, là déjà, il y a 30 ans, on avait déjà une révolte contre. Aujourd'hui aussi, donc on me contrôle parce que je suis noir, parce que je suis d'origine marocaine, parce que je suis non blanc. Donc cette problématique se pose déjà il y a 30 ans. Et donc on a répondu à ça non en changeant la manière de fonctionner par rapport à ces communautés, par rapport à ces jeunes, mais en installant des contrats de sécurité qui devaient donc empêcher les jeunes à devenir criminels, etc. Donc les contrats de sécurité, ça date déjà d'il y a 30 ans où on n'a pas voulu répondre à ce constat des jeunes qui se révoltaient contre le contrôle au faciès. Ça s'est suivi par des accusations contre ce qu'on appelait pour la première fois dans les années 90, les communautés, les masses arabo-musulmanes. C'est la première fois qu'on a parlé de l'immigration dans ces termes-là. Et c'était en opposition à la première guerre du Golfe, entre autres, où les populations d'origine immigrée ont été à l'avant-garde pour s'opposer à ces guerres. Et donc, ils ont reçu ce nom, disons. On a commencé à parler des masses arabo-musulmanes. Donc, après, c'est venu après ces révoltes de forêt. Et on peut faire un saut plus loin à partir des attentats du 11 septembre aux États-Unis. On a constaté qu'on a commencé à superposer la question du terrorisme avec les populations d'origine immigrée qui étaient de plus en plus considérées comme l'ennemi intérieur, the enemy within, comme on dit. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, avant tout, elle porte tous ces stigmates de toutes ces superpositions de l'association immigrée criminelle, l'association immigrée terroriste. Et donc, voilà pour moi qu'ils entrent prioritairement dans le viseur de nos services, de nos institutions pénales, de la prison qui est au bout de la chaîne. Et je veux bien expliquer un peu, et alors pourquoi il y a ce chiffre de 44% d'étrangers dans nos prisons, comme on dit. Donc, il y a différents éléments à ça, mais je vais peut-être d'abord laisser la parole à Selma et je peux compléter après si vous voulez.
Madame Benkelefa, est-ce que vous voulez que je répète la question ou c'est OK pour vous?
Non, c'est OK.
OK.
Ben moi, je vais pas faire une grande analyse, mais plutôt donner quelques exemples qui montrent qu'est-ce qui se passe. Il y a 8 jours, le 10 mars, un jeune garçon, il est d'origine zimbabwéenne, il est DJ, c'est un flamand, il parle flamand couramment. Et il est appelé à la police et il y va, parce qu'il ne sait pas pourquoi on l'appelle, mais il dit, on m'appelle, je vais. C'est un jeune, il a 27 ans, il travaille. Il arrive au commissariat et là, on l'interroge sur son emploi du temps à telle et telle date, etc. Il répond à toutes les questions, il était au boulot. Et on lui dit, oui, mais il y a quelqu'un qui dit que vous êtes impliqué dans un trafic de carte bancaire. et que vous auriez été dans un casino en Hollande, dépenser de l'argent. Il dit, ben non, ce jour-là, je n'étais pas dans un casino, je n'ai pas été en Hollande. Bon, bref. On lui montre une photo en disant, est-ce que c'est vous, là ? Il rigole. Il dit, ben non, ce n'est pas moi du tout. C'est un type, il est noir aussi, mais à part ça, il ne me ressemble pas. Et ce garçon est gardé, il est mis sous mandat d'arrêt et envoyé à la prison de Saint-Gilles. Il va y rester 8 jours. Il va y rester 8 jours. Il finira par sortir hier parce que l'affaire a fait grand cas dans la presse, parce que ce garçon est DJ et qui, du coup, connaît des gens à la télévision, dans les radios, etc. Et donc, que son affaire a su être médiatisée. Et qu'on a su démontrer que c'était juste pas la bonne personne. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'il y a plus de gens étrangers en prison ? Eh bien, parce que ce garçon, son seul délit, c'est d'avoir eu la même couleur de peau et d'avoir ressembler, mais je mets des gros guillemets à ressembler, parce que je vous invite, si vous écoutez, à aller voir, il y a eu des articles de journaux, il y a eu sur Instagram et tout ça, on a montré les deux photos, ces deux garçons ne se ressemblent pas. En dehors de l'idée d'un flic raciste qui dit les Noirs ont tous la même tête, c'est deux personnes qui ne se ressemblent pas. Et voilà, ce garçon a fait 8 jours de détention et c'est clair que c'est parce qu'il a été confondu avec un autre noir, mais en plus, c'est clair que c'est du trafic de cartes bancaires, mais donc ce n'est pas des vols avec violence, il n'y a pas de, y a personne qui a été attaqué, etc. Une histoire ancienne et tout ça. Un belgo-belge, un blanc, avec une même histoire, n'aurait pas été mis sous mandat d'arrêt. Je donne un autre exemple. Dans une affaire, l'affaire qui est dite l'affaire de la solidarité, c'est un procès qui va passer en appel mardi et mercredi prochain, donc la semaine prochaine. Je vous invite à venir au procès à Bruxelles, c'est ouvert au public et c'est important que la justice soit confrontée à des gens qui voient. On est là et on voit ce que vous faites. Eh bien, cette affaire, c'est, rappelez-vous, au parc Maximilien, il y a eu la plateforme d'hébergement et il y a eu des hébergeurs qui ont été poursuivis, des migrants aussi. Donc, c'était une affaire qui concernait 11 personnes. Il y en a un qui a sans doute réussi à partir en Angleterre, qui n'est plus là. Il y avait 6 migrants qui étaient poursuivis et 4 hébergeurs, hébergeuses. Dans les hébergeurs, donc, tout le monde a été mis sous écoute, examiné, poursuivi, tout ça. Et puis, un jour à 5 heures du matin, les flics débarquent chez tout le monde. Les deux hébergeurs, hébergeuses blanches, belgo-belges, sont interrogées, perquisitionnées, relâchées. Une hébergeuse belgo-marocaine, une maman d'un petit bout de 2 ans, est emmenée au commissariat et est maintenue en détention en prison pendant 2 mois. L'hébergeur tunisien, qui a encore sa carte d'identité tunisien, il n'a pas la nationalité belge, est maintenu en détention préventive pendant 8 mois. Ils sont poursuivis pour la même affaire, pour les mêmes infractions et pour faire soi-disant dans le même, ils sont poursuivis pour organisation criminelle, ils font partie de la même organisation. C'est des infractions exactement équivalentes. On a 4 personnes, les blanches ne vont pas en prison, avec, non blanc, mais avec une carte d'identité belge, 2 mois, et sans la carte d'identité belge, étranger, 8 mois. Ça, c'est les gens qui ont des papiers. Les migrants, eux, qui sont sans papiers, non seulement ils font tout le temps leur détention préventive, puisqu'on dit par définition, comme ils n'ont pas d'adresse, ils peuvent disparaître, et en plus, ils n'ont pas droit aux libérations anticipées. Donc la plupart des sans-papiers qui sont en prison font fond de peine. Donc ils ont des peines beaucoup plus longues Parce que si quelqu'un est condamné à 6 ans, souvent, il peut sortir au bout de 2 ans. Au tiers de sa peine, il a des possibilités de remise en liberté. Alors que sans papier, sans adresse, il n'y a aucune possibilité de remise en liberté. Donc, les étrangers sont non seulement plus mis sous mandat d'arrêt, sont plus détenus en préventive, mais en plus font des peines beaucoup plus longues. C'est ça qui explique ces chiffres. Donc, ce n'est pas du tout que les étrangers seraient plus criminels, c'est vraiment qu'ils sont plus poursuivis et qu'ils sont maintenus en détention plus longtemps que les autres. Et ça, c'est vraiment ce que Luc appelle du racisme structurel. C'est organisé comme ça. Donc, et ça, tout ça est indépendant des individus. Le juge qui décide ça n'est pas individuellement raciste. Et si vous lui dites qu'il est raciste, il sera très vexé. Il n'est pas du tout d'accord avec ça. Mais ça, c'est organisé de manière à ce que ça se passe comme ça, même sans que les individus ne soient d'accord avec le racisme d'État qui est mis en place. Est-ce que j'ai répondu ?
Oui, peut-être pour précision, parce que c'est vrai que c'est souvent difficile de parler de structurel, de problèmes structurels. Comment est-ce que vous expliqueriez, avec un peu plus de détails, ce caractère structurel-là ?
Eh bien, par exemple, le fait que quand on n'a pas de papier, on fait des peines plus longues, c'est prévu par la loi. On ne peut pas être remis en liberté si on n'a pas d'adresse, pas de document de séjour. Donc, les peines sont plus longues, ce qui fait qu'il y a plus de présence d'étrangers puisqu'ils restent plus longtemps en prison. Et ça, ce n'est pas du tout l'individu juge qui le décide, c'est organisé comme ça par le système carcéral belge.
Oui, merci. Merci, monsieur Verratt, si vous voulez compléter, n'hésitez pas.
Oui, je n'ai pas complété ce que Selma vient de dire parce que c'est tout à fait... voilà, la situation est comme elle dit. C'est juste que si vous n'avez pas de droit de séjour, par exemple, si vous n'avez pas le droit de circuler librement, si vous n'avez pas à présenter une occupation fixe, si vous ne pouvez pas donner les garanties, comme on dit, de représentation, eh bien, normalement, il n'y a pas d'autre alternative que la prison. Des alternatives qui existent pour les autres, mais pas pour vous, puisqu'il est dans ce cas-là. Et comme disait Selma, alors vous n'en avez pas non plus droit à la libération conditionnelle, parce que c'est garanti d'avoir un domicile fixe, d'avoir un boulot, etc. Vous ne les avez pas, donc tout ça n'existe pas. Donc, et bien sûr, comme ça, les prisons se remplissent comme on dit, avec ce qu'on dit les étrangers. Sur ce chiffre de 44%, je veux quand même encore juste dire qu'il faut bien faire attention parce que ça dépend un peu comment on compte. Hein. Donc, quand il s'agit de quelqu'un ayant la double nationalité, quand on doit le compter au sein de la population, disons, en dehors des prisons, on le compte comme belge. Parce que là, il peut aller voter, tout ce que tu veux. Quand il est en prison, on le compte comme étranger. Donc là, déjà, le problème commence pour envoyer le message. Comprenez ?
Effectivement. Merci pour l'ajout, M. Verratt. Donc, on va continuer avec la deuxième question que vous avez posée. Il y a un lien, bien entendu. C'est pas du tout à part. Donc, totalement dans le thème. Donc, quel lien est-ce que vous faites entre le système pénal actuel, donc tout ce que vous venez d'expliquer, et l'histoire coloniale ? Quel lien on peut établir entre les deux, le système pénal donc, et l'histoire coloniale ? On va commencer par Mme Ben Khalifa, pour poursuivre ensuite avec M. Verratt.
Mais les populations immigrées qui sont ici sont souvent de l'immigration post-coloniale. On constate que c'est souvent les migrants vont vers l'ancienne puissance coloniale de leur pays. ce qui fait que les Congolais restent en Belgique et ne tentent pas la traversée en canot de la Manche pour aller en Angleterre, alors que les Soudanais veulent tous aller en Angleterre. Les Irakiens aussi. Il y a cette constatation. Alors, je ne sais pas si des sociologues, des anthropologues ont déjà étudié la question. Moi, je ne sais pas l'expliquer. C'est juste un constat qu'on peut faire. Et le système actuel, il faut savoir qu'il y a quelque chose en droit pénal dont on doit se rendre compte, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la politique des poursuites. En fait, il y a des infractions qui sont commises tout le temps, par tout le monde, à tout moment. Depuis le Covid, c'est encore pire. On fait des infractions tout le temps. Et donc, à un moment, le parquet décide quelles infractions il va poursuivre de manière prioritaire. Il y a des infractions qui ne sont pas poursuivies, il y a des infractions qui sont poursuivies de manière prioritaire. On a tous en tête que les criminels en col blanc, les grands banquiers, tout ça, eux ne sont jamais poursuivis. Et on décide, donc, qu'est-ce qui va être prioritaire dans la société? Et pour le moment, une des infractions prioritaires de chez prioritaire, le truc sur lequel tous les parquets sont sur les dents, c'est le trafic des êtres humains. Et son trafiquant d'êtres humains, les gens qui essayent de faire passer la frontière à d'autres gens, ou même des gens qui essayent de passer la frontière eux-mêmes. Et fatalement, ce ne sont que des enfants d'immigration postcoloniale, des migrants, qui vont être auteurs de ces infractions-là. C'est des infractions qu'aucun Belge ne peut commettre, parce qu'un Belge qui veut aller en Angleterre, il prend le train. Il n'a pas besoin d'essayer de monter à l'arrière d'un camion. Donc, il n'y a qu'une certaine catégorie de la population qui peut commettre cette infraction. Et on décide que c'est cette infraction-là qui est prioritaire. Mais au point que cette infraction est plus poursuivie que le viol, le harcèlement, des infractions qui pourtant, pour un sentiment de sécurité dans la population, nous concernent plus. Les violeurs, c'est quelque chose, ou les pédophiles, c'est quelque chose qui peut me mettre, moi, ou mettre mes enfants en danger. Le trafiquant d'êtres humains, finalement, pourtant, le parquet décide que c'est ça qui est prioritaire. Et ça, on voit que les biais par lesquels ils décident de quelles infractions vont être poursuivies par rapport aux infractions qui ne vont pas être poursuivies, c'est un biais raciste, puisque certaines infractions commises majoritairement par des bourgeois blancs, la fraude fiscale, etc., ne sont jamais poursuivies. Certaines infractions commises par un peu tout le monde, la violence conjugale, par exemple, sont poursuivies, mais dans certains cas et pas dans d'autres, c'est-à-dire beaucoup plus dans des milieux issus de l'immigration postcoloniale. Et ce biais raciste vient vraisemblablement de tout le racisme appris et intégré de par la colonisation. C'est-à-dire, le noir et l'arabe sont potentiellement dangereux. Et ça, cette dangerosité des noirs et des arabes, c'est vraiment quelque chose qui est issu de la mentalité coloniale. Ça vient pas ça a été exacerbé évidemment en une islamophobie depuis 2001, mais ça existait bien avant, et c'est vraiment cette construction du sauvage qui justifiait que les colons avaient le droit d'être armés pour pouvoir se défendre, etc., et qui a continué d'imprégner les mentalités jusqu'à aujourd'hui, et qui, selon moi, explique le biais raciste de la politique des poursuites.
Merci, Madame Medkhalifa. Enfin, juste pour compléter, on parle aussi, il y avait plein d'exemples comme ça qui parlaient d'anciens, enfin, l'époque coloniale, mais qui se répètent aussi dans notre époque, d'anciens haut gradés dans la police ou bien d'anciens agents policiers qui, par exemple, dans le cas de l'Algérie, ont servi ont été pieds noirs en Algérie et, une fois leur retour en France, ont été placés dans des zones de police qui étaient proches de zones là où habitaient des personnes issues d'immigration, quoi. Donc, ces questions-là aussi, je ne sais pas si vous voulez commenter ça ou vous voulez passer à autre chose. Donc, je passe la parole à Monsieur Vervat pour la même question. Donc, quel lien vous faites entre l'histoire coloniale et le système pénal actuel ?
Vous avez juste cité un lien qui est très clair entre cette guerre. Donc, mais voilà, c'est le constat que ce qu'on vit aujourd'hui, on ne peut pas le comprendre sans le passé. Il y a un lien clair et direct, et ce que font les militants décoloniaux, dont on peut apprendre beaucoup pour faire justement ce lien et essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous, pas seulement en Belgique, mais un peu plus globalement dans ce monde, parce que la colonisation, c'est-à-dire que les pays occidentaux ont envahi le monde entier, l'ont partagé, etc., c'était quand même l'événement qui était le plus déterminant depuis ces dernières centaines d'années. Hein, donc, je pense qu'elle est fondamentale en ce qui concerne la formation de nos conceptions, de nos mentalités. Voilà, pour moi, ça c'est clair que ce lien il est là et qu'il faut creuser et qu'il faut démonter ces mécanismes comme le font effectivement les militants décoloniaux. Maintenant, juste pour donner quelques éléments. Moi, pour moi, la question du lien avec l'époque coloniale, elle commence déjà que c'est l'Occident qui a exporté le modèle carcéral qu'on connaît aujourd'hui dans le monde entier. Parce que, comme vous savez, la prison, comme on la connaît aujourd'hui, elle n'a pas toujours existé. Elle existe depuis 200 ans. La prison moderne en tant qu'institution, comme on la connaît aujourd'hui, elle existe depuis ces temps-là et elle a été fondée, elle a été créée aux États-Unis dans le modèle en Philadelphie et ce qu'on appelle le deuxième modèle Auburn, qui s'est propagé aussi bien en Europe que dans les colonies et dans le monde entier. Cette conception d'incarcération moderne, comme on le connaît, elle vient de là. Donc là, déjà, il y a un lien qui est, pour moi, extrêmement important pour aussi comprendre pourquoi on fait exactement la même chose dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Pourquoi ils construisent les mêmes prisons de haute sécurité ou de supermax comme on voit aux États-Unis. Eh bien, voilà, le lien, il est clairement là. C'est une affaire qui a commencé au tournant fin des années 1700, début des années 1800. C'est de là que vient notre conception d'incarcération, etc. Donc, pour moi, c'est un élément important. Quand vous posez la question, mais quel est le lien entre cette époque coloniale et aujourd'hui concernant les prisons et toutes nos institutions pénales, je trouve que c'est important de dire un mot sur ce qu'on appelait aux États-Unis le 13e amendement. Donc, on avait aboli l'esclavage aux États-Unis, disons 1860, 1870, quelque chose comme ça. Donc on disait que c'est fini, on ne va plus transporter des esclaves ici, l'esclavagisme ne peut plus exister, etc. Mais ils ont ajouté un amendement, ce qu'on appelle le 13e amendement, qui disait que oui, l'esclavage est fini, sauf quand il s'agit des prisons. Je peux lire le texte, donc il dit « Ni esclavage, ni servitude involontaire, si ce n'est en punition d'un crime dont le coupable aura été dûment condamné. Voilà. Donc, on a fait l'exception que dans les prisons, oui, l'esclavagisme pourrait exister, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Hein. Donc, c'est intéressant et ça nous choque. Mais en même temps, tu te dis, quand tu prends certaines législations récentes ici en Belgique, par exemple, où, comme vous savez, tout le monde est égal, on a tous les mêmes droits, on a tous les mêmes droits humains, etc. Mais quand il s'agit de prison, là, on a aussi notre 13e amendement, c'est-à-dire que quand, par exemple, vous êtes binational, on peut vous expulser quand vous sortez de prison. Une peine qui n'existe pas pour un belgo-belge. Hein. Et donc, pour moi, c'est un 13e amendement, parce que, soi-disant, tout le monde est égal, sauf quand il s'agit de... Et Selma pourrait le dire peut-être plus que moi, il s'agit quand même de centaines de personnes, hein, qui sont expulsées après avoir accompli leur peine. Hein. Je pourrais parler d'autres, dès que tu as eu à voir avec le terrorisme, innocent ou pas innocent, ça ne joue pas de rôle, mais on va vous expulser, vous bannir. Donc là, c'est notre 13e amendement pour moi. Donc, je vais peut-être dire encore quelque chose, ceci. Donc, par exemple, les prisons en Belgique, ça date des années 1840, avec la construction de la prison de Tongres et les dizaines qui se sont construites dans cette période-là. Donc, même pas il y a 200 ans. Tout ce parc pénitentiaire qu'on connaît en Belgique, il date de cette époque-là. Et quel était le but? C'était de donner, disait-il, plus d'humanité aux détenus, plus de conditions acceptables, fini les punitions corporelles en public, etc. Donc, voilà, comme je vous dis, ça vient des États-Unis. Et alors, vous devez vous savoir que dans notre colonie au Congo, tout ça ne valait pas. Donc là, on continuait à couper les mains des Noirs au Congo. Les atrocités, je ne vais pas les répéter, ça continuait tout simplement. Pendant que pour notre population, oui, ça valait bien. Mais pourtant, les lois belges valaient au Congo aussi, mais pas pour, sur la question des prisons et des droits. Et donc, ce que je veux dire par ça, c'est que il y a quelque chose de fondamental dans nos conceptions. Quand tu prends, par exemple, la Belgique, son attitude quand on est sorti de la Deuxième Guerre mondiale, quand on a adopté les déclarations les conventions de Genève, la Convention européenne des droits de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à chaque fois, la Belgique s'est opposée à ce que ces conventions valent pour la colonie. Les Français ont fait la même chose. Les Anglais ont fait la même chose. Donc, tous ces beaux mots, on les réservait pour, ce que je disais, pour nous, mais pas pour ceux qui étaient dans les colonies, les populations du Sud. Et ce n'est que petit à petit, après, qu'ils ont dû laisser leur colonie, qu'ils ont dit, ah oui, mais ça vaut aussi pour eux. Là, ils ont signé les conventions complètement. Et donc, il y avait même un article spécial qui c'était la clause coloniale, où un pays pouvait dire, ah oui, mais on a décidé qu'on accorde aussi les mêmes droits pour les populations dans nos colonies. Donc, vous voyez, il y a un lien dans tous nos conceptions qui peut-être explique pourquoi les comportements sont fondamentalement liés à cette tradition, je dirais, coloniale.
Merci, M. Verbat. Pour continuer dans le même ordre, vous avez parlé tout à l'heure de Mme Ben Khalifa aussi. de certaines pratiques, de certaines pratiques qui étaient beaucoup plus assimilées aux personnes afrodescendantes ou bien venant des pays venant de l'immigration. Alors, de toutes les pratiques qui causent du tort social, pourquoi est-ce qu'on se concentre presque essentiellement sur celles que l'on assimile aux personnes racisées, aux personnes issues de l'immigration? Vous pouvez prendre la parole.
Où est-ce qu'elle est
Oui, oui. Je pense qu'elle va revenir bientôt.
J'espère. Ben pourquoi ça frappe surtout et particulièrement les populations ici du sud, je dirais ça comme ça. Oui, j'ai déjà donné quelques éléments. Errant, une population, les enfants de l'immigration ici, à cause du délit au faciès, à cause de tous les stigmates qu'on colle systématiquement. Donc, ça crée, disons, une fausse sécurité, un sentiment de fausse sécurité pour, disons, la population blanche, ou oui, ça peut être aller plus loin aussi, mais ça crée donc, on est protégé contre les délinquants, les criminels, tout en désignant donc un coupable. Pourquoi ça ne marche pas comme qu'on aimerait que ça marche? Donc je parle bien d'une fausse sécurité, parce que une vraie sécurité, c'est ce qu'on n'a pas. Donc on fait semblant qu'on crée une, mais le fond de notre existence, il n'est pas en sécurité. Quand on voit ce qu'il s'agit au niveau du marché du travail, au niveau du logement, au niveau de l'éducation. Tous ces problèmes-là, là, on crée au moins cette sécurité. Maintenant, moi, je trouve qu'il y a fondamentalement un message qui désigne cet ennemi. Quand, par exemple, il y a M. Barthe-Wever qui dit « Je veux construire une prison au Maroc ». Mais c'est quoi ça comme message? C'est quoi ça? C'est que donc, voilà, on doit se débarrasser d'un corps étranger au nôtre. Voilà. On a coupé ce qui est malsain dans nos sociétés, et on va, et voilà encore, comme vous avez dit, le lien avec le passé colonial, c'est quoi ça? Donc, on va donc bannir ces populations vers le sud, comme on a fait dans le temps des bagnes. Hein, c'est un peu cette idée-là. Et donc, on donne cette image-là, on doit couper cette partie malsaine au sein de la société. Quand Anne-Marie Lizin a dit « il y a des Belges, entre guillemets, des Belges entre guillemets, s'ils se trouvent à Guantanamo », mais c'était des gens qui étaient nés ici, et on parle des Belges entre guillemets. Quand M. Renders est revenu d'Afghanistan et quand il a dû répondre à Mourot, qui était le bourgmestre dans le temps au Molenbeek, quand il disait « Ah, au lieu d'aller en Afghanistan, j'aurais pu aller à Molenbeek », c'est quoi ça comme message? Et donc, je trouve que pour moi, fondamentalement, et là, je trouve qu'il y a une sorte pour moi de guerre anti-insurrectionnelle, un schéma de guerre anti-insurrectionnelle qu'on a appliqué dans le temps dans les colonies pour mater les populations qui étaient en révolte, et qui en fait s'applique ici aussi, bien sûr pas de la même manière, mais on va effectivement viser des populations entières. On ne va pas prendre des individus ou dire voilà, il y a un mauvais élément, oui, ça arriver. Non, on va donc se concentrer sur des populations entières qui sont dans le viseur. Et moi, j'habite à 5 minutes de Molenbeek, juste de l'autre côté du canal. Mais combien de fois, et maintenant encore, on reparle de cette commune en termes criminogènes. C'est comme, voilà, il y a un territoire là, qui est visé et on se demande comment ils ont construit cette image. Hein. Donc, on peut dire qu'il y a plus de jeunes qui sont partis en Syrie à partir d'Anvers et de Malines qu'à partir de Molenbeek, par exemple. Mais je trouve qu'ils ont manipulé et voilà, je trouve qu'on crée donc ce sentiment d'insécurité, de menace. Et alors, pour revenir peut-être aussi à la violence policière et aux prisons, ne soyez pas étonnés que profondément, intérieurement, on intègre certains messages qui vont s'exprimer par des actes plus violents, plus visés contre des populations dont on a l'impression qu'ils sont le représentant de cette menace. Donc, la jeunesse, elle est particulièrement présente dans les prisons et la jeunesse issue de l'immigration, elle y est particulièrement représentée. Donc, c'est comme si nos ennemis, moi j'ai toujours dit, j'étais prof en prison, comme vous avez dit, j'ai été exclu, mais j'ai toujours dit, il faut aimer les gens pour commencer. Hein. C'est bête hein, comme message, mais je le trouve, j'en suis convaincu. Il faut aimer les jeunes. Et peut-être qu'en les respectant, en les aimant, vous allez gagner le respect et ce sera réciproque. Mais pas comme vous êtes en train de faire maintenant, où à la fin, la prison devient quelque chose de normal dans les familles. Parce que j'aimerais bien savoir combien de familles connaissent déjà quelqu'un dans leur famille qui a fait la prison pour une petite période ou pour une longue période. Mais ça, c'est très intéressant, je suis pas sociologue ni rien du tout, ou statisticien, mais ce serait très bien, très intéressant une fois examiner combien de personnes connaissent quelqu'un dans leur famille. Parce qu'aux États-Unis, ils ont fait l'examen et c'est tout simplement hallucinant. C'est des dizaines de pourcentages, je ne vais pas vous les citer maintenant, qui ont eu à voir avec la prison. Voilà.
Moi, j'irai un peu plus loin dans la question. Je vais essayer de creuser un peu ce qu'il y a dans la question. Dans la société, il y a des torts qu'on assimile vraiment aux personnes qui sont issues de l'immigration. Je pense que Ahmed Khalifa l'a cité, vous aussi, durant l'intervention. Et vous avez parlé aussi du fait qu'il y avait une criminalité qui était moins punie, en tout cas, qui allait moins en prison. Donc, pourquoi est-ce que la justice se concentre beaucoup plus sur ces torts-là qu'on assimile à ces personnes-là? Donc, on dit, par exemple, ceux qui viennent de tel pays, tel autre pays, sont plus propices à faire telle action ou telle action. Donc, pour vous, pourquoi est-ce qu'on se concentre beaucoup sur ces pratiques-là? Et pourquoi est-ce qu'on assimile en fait ces pratiques-là aussi à ces personnes-là?
Eh bien, un instant. Je trouve que, oui, comme a dit Selma, et je vais le confirmer, moi, j'ai jamais vu quelqu'un de la bourgeoisie. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas quelques-uns, hein, donc, mais moi, je n'ai jamais eu dans mon cours, hein, donc, et mes collègues non plus. C'est toujours des personnes, oui, voilà, d'en bas de la société, dans la classe qui est en bas, que j'appelle la classe des travailleurs, des chômeurs, des précarisés, voilà. J'avais pas mal d'illettrés non plus, mais c'est un cible très facile, hein, donc ces personnes-là, n'est-ce pas? Parce que pour le reste, il faut faire plus creuser parce qu'ils sont plus malins, ils ont plus d'argent, ils ont tous les avocats qui veulent pour les protéger, etc. Donc, il est clair que cette criminalité-là, je parle, tu prends quelque chose qui est, voilà, on dit c'est un voleur, ok, oui, c'est possible, mais quand on compare ce que ceux en haut volent en juste en mettant une signature, hein, quelque part. Vol de la société. Là, on ne le sent pas directement, on ne le voit pas directement. Mais comme on a vu dans la crise en 2008, ils ont poussé des dizaines de personnes au suicide, hein, parce qu'ils avaient ruiné des pays entiers. Mais tout ça, on tourne la page et c'est fini. Maintenant, quand je lis, excuse-moi, hein, mais quand je lis la déclaration gouvernementale, qui vont se concentrer sur les petits délits de vol en étalage et ce genre de criminalité, et ils vont le juger immédiatement pour empêcher la récidive, etc. Mais donc c'est noir sur blanc qui vont se concentrer sur ce genre de truc qui doit donner, et j'y reviens, qui doit donner l'illusion de sécurité, de protection. Mais ceux qui, honnêtement, ceux qui nous volent, qui nous enlèvent les moyens pour faire fonctionner une société normale. Là, reste hors du champ de tir. Et donc, pour moi, c'est clairement un message d'une société, que j'appelle une société de classe, qui s'attaque vers le bas. Et qui l'a toujours fait. Et donc, ça n'a pas changé fondamentalement. Et le clivage entre riches et pauvres, il est peut-être n'a jamais été aussi grand que dans les temps modernes qu'on connaît. Mais c'est quand même dramatique quand on y réfléchit. Et donc, je veux dire, on peut élargir. Elle dit, mais ceux qui détruisent notre planète à tous les niveaux, hein, écologistes, etc. Je veux dire, mais ils restent hors du champ de tir. Normalement, si vous ou moi, on fait des trucs, on va tout de suite se trouver devant un tribunal, non? Donc, mais voilà, ça reste, et c'est quand même une prise de conscientisation qui est nécessaire. Et que moi, j'ai beaucoup appris de ce que le mouvement noir aux États-Unis, aussi à partir, et certainement à partir du meurtre de George Floyd, a mis des points d'interrogation derrière le système violent qui existe et dans lequel on vit, et où les personnes de couleur, c'est eux aussi, avant tout, qui ont l'expérience de tout ça. Hein? Et donc, il faut écouter les gens qui ont eu l'expérience et pas ceux qui n'ont jamais eu affaire avec ça. Hein? Donc, ça, c'est. Moi, je dis toujours, les droits de l'homme, c'est facile. Vous et moi, on l'a. Mais ils entrent en jeu au moment où on parle des gens qui n'en ont pas de droits. Et donc, il faut peut-être qu'on commence vraiment à réfléchir sur ce que c'est la sécurité, sur ce que c'est redevenir universel au lieu de se retrancher dans des forteresses comme on est. Voilà, maintenant je dévie un peu de votre question, mais voilà. Maintenant je ne vous entends pas.
Désolé, je n'avais pas allumé mon micro.
Ah oui.
Merci pour votre intervention. En tout cas, il n'y a pas de souci. C'est juste que Mme Ben Khalifa a un souci technique, donc elle devrait nous rejoindre incessamment sous peu, et on lui posera aussi la question du coup. En attendant, je vais vous poser les questions. On a reçu quelques questions du public, donc je vais vous les poser. Comme ça, vous pouvez donner quelques éléments de réponse aussi. Donc la première question qu'on a, c'est les médias donnent à tout un chacun un sentiment d'insécurité profond. Cette angoisse n'est pas valide. Quelles sont les solutions que vous proposez pour cette thématique? Donc, le rôle des médias.
Oui?
Oui, vous voulez que je répète la question?
Ah oui. Non, j'ai compris, mais après l'image c'était un peu figé comme ça, mais maintenant je vous vois bien.
Pas de souci. Okay. Vous pouvez y aller.
Oui. Donc la solution, Moi, personnellement, je pense qu'on doit s'inspirer des mouvements de masse qu'on a connus aux États-Unis et comme on connaît aussi chez nous. Hein, donc, c'est clair. Je trouve qu'on doit soutenir les familles avant tout, parce que pour moi, c'est la garantie. Pour moi, c'est par les familles entourées et soutenues par un mouvement de masse qu'on peut changer un climat et qu'on peut faire reculer cette évolution, cette piste glissante sur laquelle on se trouve vers plus en plus de violence et ce que j'appelais, et je pèse mes mots, vers un fascisme moderne. Hein, donc, parce que c'est sur cette piste-là qu'on est en train de glisser si on n'arrête pas. C'est une idée pour moi qui est essentielle. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est soutenir ces familles qui sont confrontées à ces violences, c'est soutenir ces familles qui se trouvent depuis des mois maintenant devant qui demandent que les conditions auxquelles on soumet les détenus et les familles et leurs enfants, c'est soutenir cette problématique-là, ces familles-là qui sont impliquées. Je trouve que c'est pour moi c'est l'orientation qu'on peut suivre. Deuxièmement, moi je trouve, à la personne qui pose cette question, moi je trouve qu'on doit redevenir utopiste, c'est-à-dire on doit recommencer à rêver d'une autre société. Et cette utopie, ils essayent de la pousser vers le bas en disant tout le temps « Non, mais on est la seule alternative possible, la meilleure société imaginable. Vous vivez dedans, c'est la meilleure du monde. » C'est d'ailleurs pour ça que personnes issues de l'immigration souvent viennent ici parce qu'on dit que c'est magnifique ici. C'est la terre de la liberté, etc. Mais une utopie pour voir une autre société possible. Et pour moi, et en prison, c'est une société sans police. Et alors on va me dire, mais c'est impossible, mais peut-être ayons ça comme objectif et construisons peut-être petit à petit un chemin qui pourrait nous amener vers là. Je vous donne un exemple. Je connais pas mal d'anciens détenus qui ont purgé souvent des longues peines, mais qui ont un message d'espoir, qui ont un message aux jeunes, les jeunes qui respectent ces gens, parce qu'ils ont vécu le pire, ils ont vu le bas, ils ont été ramenés souvent à l'existence que j'appelle l'existence nue. Et donc, ils peuvent avoir une influence énorme, positive sur les jeunes pour les faire avancer dans leur vie, pour prendre leur sort en main. Je parle par exemple de quelqu'un que je connais très bien, comme Jean-Marc Mailly, qui a fait presque 20 ans de prison et qui va témoigner partout où il peut, dans les prisons, maisons de jeunes, institutions de protection, etc. Il a une pièce de théâtre, etc. Il y a tellement. Il y a beaucoup, disons-le, de personnes comme ça qu'on pouvait mettre ensemble et avoir une influence positive au sein de cette société dans le sens de faire revivre l'espoir, faire renaître cet espoir qu'une autre société est possible. Donc, je trouve que ça, c'est quelque chose. Il y a tellement de richesses dans cette société qu'on pourrait investir dans la jeunesse, dans plein de secteurs. Et pour moi, à partir des tout petits, hein, donc pas attendre jusqu'à avoir des gamins de 14-15 ans là-dedans. Pour moi, c'est des formules qui sont intéressantes. Je connais des expériences aux États-Unis où des ex-détenus qui ont été condamnés dans le temps pour des actions violentes, qu'ils ont formé des groupes au sein des communautés pour empêcher justement qu'il y ait violence, qu'on ne doit pas tout le temps appeler la police pour dès qu'il y a un bruit de voisins ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a des modèles d'auto-organisation des quartiers, des populations qui pourraient nous amener sur un chemin de libération de la piste sur laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, des solutions, moi je les vois comme ça. Les familles, mettre au travail et engager toutes ces personnes qui ont un vécu oui, souvent assez terrible, pour utiliser leur expérience pour éduquer, pour nous éduquer sur une autre manière de prendre les choses, nos vies en main, par exemple. Voilà, c'est peut-être un peu global et tout, mais pour les médias, j'ai pas de réponse, honnêtement. Je veux dire, en soi, j'ai pas de réponse. Donc, vous créez là votre propre média, c'est déjà pas mal, je trouve.
Effectivement. Je vais poursuivre. Madame Benkeifa a un souci apparemment avec sa connexion Internet, donc je doute qu'elle puisse nous rejoindre bientôt. Donc la seconde question qu'on a, c'est que manque-t-il selon vous dans la législation antiraciste et ou dans l'organisation des procédures judiciaires pour empêcher les biais racistes de se concrétiser en discrimination et donc en condamnation aussi?
Vous voulez bien répéter la question, s'il vous plaît?
Il n'y a pas de souci. Donc, que manque-t-il, selon vous, dans la législation ou dans l'organisation des procédures judiciaires pour empêcher les biais racistes de se concrétiser en discrimination et donc en condamnation aussi?
Le problème, on a énuméré quelques problèmes qui sont là. Quant à la condamnation des personnes, par exemple, pas en séjour légal ou n'ayant pas la liberté, donc vous pouvez inscrire comment vous pouvez inscrire ça dans la loi, dans le sens, la question à prendre en main, c'est régler la question de l'immigration qu'on appelle aujourd'hui illégale, en acceptant pour moi que oui, il y a des populations qui vont se déplacer à cause de la misère, à cause de la guerre, à cause du fait qu'ils veulent un meilleur avenir. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire et ce sera valable aujourd'hui aussi. Donc, si vous voulez enlever cette chasse aux migrants, il faut régler le problème de ce qu'on appelle aujourd'hui l'immigration illégale et en régularisant les populations qui se déplacent. Et ceux qui pensent que toute l'Afrique ou toute l'Asie ou toute l'Amérique latine viendra chez nous, ils se trompent. Hein. C'est pas comme ça que l'immigration marche. Oui, il y aura des dizaines de milliers. Et quoi? On n'a pas assez de moyens, peut-être? Est-ce que ce n'est pas un peu, et pas un peu, le retour du boomerang? Quand on fait le lien avec l'histoire coloniale, d'un côté, et est-ce qu'on n'a pas oublié les dizaines, les centaines de milliers et peut-être des millions de gens qui se sont déplacés à partir de l'Europe quand il y avait la guerre, quand il y avait les crises, ou par exemple la moitié de l'Irlande a émigré parce qu'il y avait la famine, il y avait les problèmes. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre que ça se pose exactement de la même manière dans certains pays de l'Afrique, par exemple? Donc voilà, moi je trouve qu'il faut accepter que le monde va évoluer dans ce sens, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais que il faut développer cette nouvelle conception effectivement. Donc pour moi, oui, la question de la législation, elle est difficile à régler ce problème sans régler le problème de l'immigration qu'on appelle illégale aujourd'hui. Voilà.
Et je rajoute quand même, vous avez parlé de... Est-ce que notre société n'a pas assez de moyens pour accueillir des personnes bon, qui viennent ici? Mais il y a aussi la question de, ces, de l'apport que ces personnes-là
Exactement.
ont ici, en fait, et de l'importance qu'ils peuvent avoir en venant
Exactement.
Ici.
Exactement.
La plupart du temps, quand on entend des discours, c'est souvent ces personnes qui viennent ici pour travailler, ouais. qui viennent travailler. Mais Absolument. Les situations administratives leur en empêchent, les en empêchent.
C'est vrai ce que vous dites. En plus, hein, donc, quand vous êtes professeur, quand vous êtes médecin, quand vous êtes spécialiste, vous êtes toujours bienvenu ici, n'est-ce pas? Donc, parce que là, ça nous intéresse, toujours pour notre propre intérêt, mais quand il s'agit d'un pauvre, hein, un travailleur qui veut juste voir, qui est en bas, encore une fois, ah ben non, ça on ne veut pas. Donc, ce qui est très grave aussi, parce qu'on nuit les pays d'origine, disons, en les prenant toutes leurs connaissances et tous les investissements qu'ils ont faits. C'est ça ce qui se passe chez nous.
Une prochaine question. En raison de ce caractère si profond, à ce point systémique, du racisme dans notre pays, ne serait-il pas stratégique un instant. Parce que j'ai perdu la question. Oui, donc ne serait-il pas stratégique de d'abord exiger une réforme du système pénal sur l'angle particulier des peines? Par exemple, l'abandon de la réclusion. Donc, la proposition ne nie pas un caractère problématique, scandaleux du racisme, mais elle se veut pragmatique. Je ne sais pas si vous voulez que je répète la question.
S'il vous plaît.
Oui, il n'y a pas de souci. Donc, en raison de ce caractère si profond, à ce point systémique, donc de ce dont on vient de parler, donc du racisme de notre pays, ne serait-il pas stratégique de d'abord exiger une réforme du système pénal sur l'angle particulier des peines?
Moi, je comprends le souci de la personne qui pose cette question. Oui. Le problème pour moi, c'est que, en fait, la prison en soi, on parle souvent de réforme de la prison, maintenant on parle aussi beaucoup de réforme de la police, mais je suis désolé, on entend cette chanson depuis 200 ans. Donc, la première prison qu'on a construite, la prison moderne comme on le connaît, c'était déjà une réforme par rapport à ce qui existait avant. Et depuis, on n'a connu que des réformes qui devaient humaniser la prison, qui devaient rendre la prison plus humaine, qui devaient empêcher la récidive. Et pour arriver à la conclusion, 200 ans après, que le résultat est toujours le même. On a une récidive, disons, de 50 à 60%. Il y a des gens, des personnes, des professeurs qui ont commencé à réécrire le livre avec tous les lois et les trucs là. La conclusion qu'ils voulaient mettre dans leur concept, c'est que la prison ne pouvait être que la toute dernière solution. Et ça, on n'a pas voulu accepter. Donc, on veut garder la prison comme le moyen par excellence pour punir n'importe quoi. Vous avez fait une infraction en ne portant pas votre masque, mais je sais pas, vous réalisez, mais on parle de prison quand l'infraction est grave ou je sais pas quoi. Je veux dire, il faut, je pense, bannir l'idée que automatiquement une infraction doit se traduire dans un nombre de jours, de mois, d'années, de décennies à passer en prison. Il faut absolument rompre cette logique-là pour arriver à quelque chose d'autre. Et quand j'ai dit on parle que de réforme de ceci, de réforme de ça, moi je pense que il faut fondamentalement révolutionnariser notre conception de société. Et si on fait ça, la prison suivra. Mais ce ne sera pas à l'inverse, selon moi. Si la société reste aussi inégale qu'elle est aujourd'hui, la prison ne peut pas changer de caractère. Ça, c'est mon opinion. Parce que l'inégalité, elle est ancrée même au sein de nos sociétés, et la prison, elle va être l'expression de cette forme de société. La police, elle va s'adapter à cette idée, à ce cadre qui existe dans la société. Elle fonctionne là-dedans. Et donc, moi, je pense que ce qu'on a besoin, je répète, je soutiens tous les efforts au niveau d'essayer de formuler des lois et des améliorations, honnêtement, je le soutiens, qui peuvent améliorer la situation et empêcher qu'il y a ce traitement raciste auquel on assiste. Mais je pense que le fond doit être le changement au sein de la société même. Comme je vous ai dit, j'attends beaucoup de l'action des familles, etc., qu'on se réunisse autour de cela. Et comme on a vu avec George Floyd, c'est à partir de là que le système recule, et que pour la première fois, peut-être, on aura une condamnation d'un policier, hein, parce que normalement, 99% des cas sont tous classés, comme on voit d'ailleurs en Belgique. Hein. Ce qu'on a vu, c'est que dès qu'il y a un mouvement, mais vraiment large, eh bien là, on doit reculer et on doit changer toute conception. C'est la première fois qu'on a vu ça, depuis si longtemps. Comme disait Angela Davis, on le demande depuis des décennies et maintenant, voilà, il y a un mouvement de masse qui s'empare de ces revendications, et je crois que c'est vraiment le chemin à suivre.
Effectivement. Merci beaucoup. Donc on va prendre une dernière question et ensuite on va clôturer l'événement. Donc
Selma, elle m'abandonne là.
Oui, oui, malheureusement,
elle a,
elle a un problème de connexion et elle ne pourra pas revenir, malheureusement. On la remercie quand même pour l'apport, en tout cas, qu'elle a donné au début de la conférence. Donc, la dernière question, c'est y a-t-il des initiatives au niveau parlementaire et ou dans différents parquets pour déconstruire les biais racistes de la justice belge? À votre connaissance, en tout cas.
Mon cher modérateur, je ne suis pas bien placé pour vous répondre à cette question. Honnêtement, je ne suis pas dans ce milieu et voilà, je sais que par exemple, en janvier, on a dit que les binationaux pouvaient aussi jouir de la protection consulaire, contrairement à ce qui existait avant. Donc, bien sûr, on va voir tout ça, ce que ça va donner, parce qu'il faut encore l'accord du pays de l'autre côté, et on n'est toujours pas vraiment obligé d'accorder, par exemple, des visites en prison pour quelqu'un qui a la double nationalité et qui se trouve dans son pays d'origine, etc. Ce que je trouve, pour moi, c'est qu'il faut abolir au niveau parlementaire par les lois. C'est la loi qui a été adoptée après les attentats qu'on a connus à Bruxelles, qu'on appelle la loi sur la déchéance de la nationalité, qui rend plus facile de déchoir quelqu'un, bien sûr binational, de sa nationalité. Pour moi, il y a une peine, une seule, c'est-à-dire vous êtes belgo-belge ou vous êtes belgo-marocain ou belgo-congolais, ça n'a aucune importance, le délit au moins qui soit égal pour tout le monde et pas double peine pour les autres. Il y a deuxièmement, il y avait donc la loi sur ou la révision de la protection consulaire qu'ils avaient fait M. Jens et M. Renders, qui maintenant a été révoquée en commission en janvier 2021. Donc ça, c'est un pas. Et il y avait aussi la loi de l'expulsion de, je pense, c'est de M. Franken, qui pouvait expulser vers ce qu'on appelle toujours son pays d'origine, n'est-ce pas? Parce que même, il n'y a pas d'origine du tout. Hein, donc, je veux dire, c'est des gens souvent qui sont nés ici, qui sont de troisième ou etc. Génération. Et donc, je reviens là sur la question des prisonniers qui ont la double nationalité ou qui n'ont pas la nationalité belge, qui sont donc immédiatement et automatiquement qu'on veut les expulser vers ce qu'on appelle leur pays d'origine, même s'ils sont nés ici. Et donc, je trouve que c'est un processus je vais encore juste avant l'émission, je viens d'avoir un coup de fil de quelqu'un à Leuven Central qui est dans ce cas où donc les services de l'immigration viennent lui parler sur ses racines en Belgique, sur sa famille, etc., tout en préparant un dossier pour pouvoir l'expulser après qu'il a fait sa peine en Belgique. Donc, ça, c'est des trois choses. La loi de l'expulsion, je trouve que c'est des choses à régler en urgence.
Merci. Merci beaucoup, M. Norvat.
Et vous.
Je vous remercie de votre participation, en tout cas. Je remercie aussi Madame Ben Khalifa pour sa participation à cette conférence-là. Je vais donc doucement clôturer donc la conférence et je vais essayer de faire une petite conclusion et un résumé de ce qui a été dit ici. Donc ce qu'on peut retirer en tout cas des interventions ici. Donc premièrement, je pense qu'on a fait un constat clair qui est que les institutions pénales en Belgique ont un caractère structurellement raciste par la manière dont elle traite les différentes affaires de droit, selon que ce soit une personne qui est identifiée comme étant issue de l'immigration et une personne qui est pas identifiée comme issue de l'immigration. Mais il y a aussi les biais, comme vous en avez parlé, M. Vervat, qui sont liés à des conditions de classe. Ensuite, on a fait le lien que tous ces constats-là sont aussi liés, bien sûr, à l'histoire que nous partageons avec les pays d'origine des personnes issues de l'immigration, donc le lien colonial qui lie les pays européens en général avec ces ressortissants-là. Donc pour finir, et donc, on a identifié aussi le long de la conférence qu'il y avait des comportements, des pratiques qui étaient assimilées automatiquement à des personnes identifiées comme étant étrangères, comme étant issues de l'immigration, etc. Et que ces pratiques étaient plus durement punis que d'autres pratiques. Donc, comme M. Vervat l'a souligné, donc, il y a des personnes qui, dans notre société, qui font des pratiques qui font plus de tort à la société que des petits vols, etc., et qui sont moins réprimées au niveau de la justice. Donc, M. Vervat, est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire?
Je tiens à vous remercier pour votre modération. Et comme j'ai dit, pour avoir choisi ce thème, j'en profite pour saluer les familles des détenus. Et voilà, je pense que ça peut apporter un petit lueur d'espoir qu'ils se sentent pas abandonnés et laissés dans leur trou, comme on dit. Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc voilà, merci d'avoir attiré l'attention sur cette problématique. Peut-être que, oui, quelque chose qui m'a fait très mal dans le temps quand j'ai travaillé en prison, c'était que je ne pouvais pas enseigner à des personnes dont ils disaient que de toute façon, ils vont être expulsés. Ils n'avaient pas droit à suivre des cours. Parce que, de toute façon, il faut pas apprendre le français ou le néerlandais ou autre chose. Pour moi, ça c'est structurel. Pourquoi quelqu'un, même si c'était le cas, Et pourquoi il n'a pas le droit à l'instruction? Pourquoi il n'a pas le droit à l'éducation comme tout autre être humain? Ça, je trouve structurel, ça. Et donc, voilà, il y a des... J'invite tout le monde, si vous avez l'occasion, allez visiter un détenu en prison. Entrez dans les prisons. Essayez qu'il sorte de l'ombre dans laquelle il se trouve dans cette société. Demandez l'autorisation. Essayez de prendre contact avec les visiteurs ou visiteuses de famille, de prison. Et voilà. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à voir. Et c'est une manière d'introduire cette problématique cachée au sein de la société, parce qu'il y a des histoires. Peut-être, bon, juste mon dernier mot, c'est ce petit livre dont vous avez parlé d'ailleurs, ce procès de la solidarité. Il y a aussi le procès des Soudanais, hein, il y a deux procès en même temps, le mardi. Il y a des histoires, c'est les témoignages des inculpés, de sept des inculpés, et c'est des histoires très 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 touchantes pour comprendre un peu le pourquoi des gens ont émigré, les difficultés, la vie terrible qu'ils ont connue chez nous avant alors de se retrouver en prison. Donc voilà, c'est au moins mon mot de la fin pour dire que essayons que tous ces gens soient libérés, qu'il y a des excuses sur les traitements qu'ils ont subis.
Merci beaucoup. Vous avez anticipé, parce que je comptais vous demander, justement, vu que Madame Ben Khalifa n'est plus là, de parler du livre un peu. Mais merci beaucoup, en tout cas.
On s'est compris,
effectivement. On s'est compris. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant, comme toujours, de vous entendre.
C'est un plaisir.
Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc le 26 mars prochain. Donc nous aurons donc la deuxième conférence du cycle qui est sur... donc, les questions de féminisme, je vais vous dire le titre exact. Donc, le lien entre donc, le féminisme anticarcéral, le pénal a-t-il sa place dans les luttes féministes? Donc, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine. Et voilà. Et n'hésitez pas à suivre Monsieur Vervat et Madame Ben Khalifa dans leurs activités respectives. Et ils font tellement de choses dans la société, que ce sera intéressant de voir ce qu'ils font en dehors. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous et un bon week-end aussi.
Vous aussi.
Ciao. Au revoir.
Ciao.